Il est 6h40, bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées et nous évoquions dans le journal le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Eh bien Jacques, au moment de signer la paix, de nombreux officiers de l'état-major, à commencer par Foch, poussaient à la poursuite de la guerre.
Et oui, c'est ce que rappelle Pierre-Yves Hénin sur le site de l'hebdomadaire Le Point. Face à une Allemagne affaiblie, l'opportunité d'une offensive en Lorraine où le front est dégarni apparaît comme un moyen de transformer l'avantage militaire en victoire politique. Je cite, la bataille n'ayant pas été portée sur leur sol, les militaires allemands peuvent convaincre l'opinion que leur armée n'a pas été réellement vaincue et que les alliés ne sont pas fondés à leur imposer des conditions trop lourdes. La préparation de l'offensive est planifiée, mais la signature de l'armistice va finalement l'annuler. L'historien relève que les partisans d'une poursuite de la guerre ont négligé un élément important. Depuis le 9 novembre, la révolution a gagné Berlin. Une nouvelle offensive aurait transformé en déroute la retraite allemande, laissant les troupes en débandade à la merci des comités de soldats. Comme Bismarck face à la Commune, les alliés eux-mêmes, peu désireux de voir s'installer un pouvoir spartaco-bolchevique, auraient dû aider à la reconstitution de l'armée allemande. Outre-Rhin, en effet, les mutineries de marins de la base de Kiel, où l'état-major avait ordonné fin octobre une opération pour l'honneur, donnent le coup d'envoi d'un vaste mouvement qui aboutira à la révolution spartacienne. Courrier international publie la une du quotidien allemand Frankfurter Zeitung le 11 novembre 1918. S'il se réjouit de la fin des combats, il s'alarme des conditions imposées par les alliés et fait état d'une note adressée par le gouvernement allemand au secrétaire d'État américain Robert Lansing. Si le blocus se poursuit et qu'en même temps se durcissent les restrictions au transport et la pénurie de vivres, alors le chaos politique sera aussi total qu'inévitable et l'Allemagne souffrirait aussi les hommes qui, emportés par l'ivresse de la victoire, ne prêteraient pas attention aux dangers qui menacent leur propre peuple. Si l'Allemagne, l'empire qui semblait le plus solide, se muait en centre du bolchevisme mondial. Le journal en appelle à préserver la toute jeune République et dénonce l'acharnement des alliés. Côté austro-hongrois, l'effondrement de l'empire a des conséquences territoriales considérables qui vont redessiner la carte de l'Europe centrale jusqu'aux crises et conflits de la fin du XXe siècle. L'irrédentisme des Serbes, des Tchèques ou des Roumains s'affirme au détriment de la Hongrie notamment. Et d'une manière générale, la mosaïque de mixité culturelle, linguistique et confessionnelle qui caractérise la région constitue une bombe à retardement, comme le souligne l'historienne Catherine Aurel dans le Figaro Vox en rappelant que les pan-germanistes autrichiens lorgnaient vers le Reich, c'est la difficulté pour l'Autriche de définir une identité propre qui soit allemande par la langue et la culture, mais non par l'attachement à l'Allemagne, qui a été peut-être plus préjudiciable à la monarchie que son impossibilité à trouver une solution aux problèmes posés par les autres groupes nationaux. Pour Dominique Moisy, dans Les Échos, c'est l'une des leçons à tirer de la Grande Guerre à l'occasion de cette commémoration de 1918. On peut se conduire comme Clémenceau pour gagner la guerre, mais pas pour gagner la paix. Et le nationalisme, dans ses excès, conduit de manière directe ou indirecte à la guerre, d'où sa défense et illustration du multilatéralisme, rejeté aujourd'hui par Trump, comme hier par l'Amérique d'après le président Wilson. Poussée par un mouvement isolationniste, elle laissa l'Europe face à elle-même et à la montée suicidaire en son sein de mouvements populistes et irrédentistes. Le 11 novembre 2018, un rendez-vous manqué pour la paix, titre L'Humanité, sa page débat et controverse. Pauline Tétillon dénonce notamment, à l'occasion de la tenue du Forum de Paris sur la paix, l'attitude de la France qui s'accommode des manquements aux droits humains dans des pays auxquels elle vend des armes. La coprésidente de l'association Survie, qui se mobilise contre la France-Afrique, rappelle que de nombreux chefs d'État invités à la commémoration du 11 novembre sont responsables des conflits dans le monde et que notre pays a précipité dans la guerre de 14 des milliers d'hommes recrutés de force dans son empire colonial. C'est à ces soldats que rend hommage la statue inaugurée à Reims la semaine dernière et dont le parcours mouvementé et symbolique des méandres du cours de l'histoire. Conçue en 1921 contre la haine et la campagne de calomnie visant les soldats de couleur dans les territoires allemands occupés après la Grande Guerre, elle fut détruite par les nazis. Dans les pages idées de Libération, Alain Mabankou et Pascal Blanchard racontent cet arrière-plan qui remet en lumière l'engagement de centaines de milliers de combattants africains.